Merci. Donc, mon objectif, c'est de vous présenter la filière, on va dire, industrielle de l'aspect semences et des prairies fleuries. Alors, dans les prairies fleuries, il ne faut pas oublier qu'il y a les prairies. On parle beaucoup des fleurs sauvages, des espèces locales potentielles. Mais la partie prairie représente malgré tout une grosse force au niveau déjà du volume des graines qui sont utilisées pour avoir...
Justement sur le terme de prairie fleurie, en fait ce terme là dans le cadre de ce qu'on voit le plus souvent dans les prairies fleuries est en fait assez peu adapté puisque par définition les prairies sont des espèces vivaces, c'est constitué par des espèces vivaces dans des milieux plutôt minuscules. Alors là on est sur des compositions qui sont généralement que des espèces annuelles, on est sur des cortèges plutôt ruraux, mais juste en termes écologiques les termes ne correspondent pas. Et surtout, je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a en ce moment, il existe un concours prairie fleurie qui n'a rien à voir puisque c'est un concours agricole pour élire les plus belles prairies naturelles de fauche ou pâturées qui se fait dans les parcs nationaux ou dans les parcs régionaux. C'est juste une parenthèse, mais dire que ce terme-là peut amener à des confusions, notamment par rapport au concours prairie fleurie.
D'accord. Donc, de toute façon, effectivement, c'est par rapport à ça que je fais référence. Prairies fleuries méditerranéennes. Les prairies, par définition, elles fleurissent. Ça se voit ou ça se voit pas, mais même si elles sont composées que de régras et de dactyles, elles fleurissent. Donc, mon objectif, à la demande de Olivier, c'est, et de ce groupe de travail et de réflexion, c'est d'essayer de fédérer cette filière que nous sommes, que nous représentons tous, de la recherche scientifique et appliquée jusqu'à la production et à l'utilisation de ces fameuses semences et de ces mélanges de semences. On va essayer tous ensemble de faire les plus pertinentes pour nos milieux, quoi. Donc en quelques minutes, ça va être bref, je vais vous présenter l'aspect industriel et l'aspect filière semence de la recherche variétale jusqu'à l'utilisateur. Donc en fait, les contraintes de production qui permettront d'aboutir à ce qui est le nerf de la guerre, le coût de ces productions pour la mise en œuvre. Et la question que se posent tous les gestionnaires, c'est combien ça va coûter au moment du semis. Voilà. Donc, en ce qui concerne les contraintes de production, il y a trois phases importantes. Il y a la recherche jusqu'à la multiplication des graines. Il y a de la multiplication des graines à la certification. Et de la certification à l'utilisation par le semis. Alors, je dis parce qu'aujourd'hui, une grosse majorité des graines sont certifiées, en préambule. Il y a les espèces certifiées, il y a les espèces non certifiées, mais soumises à des normes techniques, que par exemple M. Minot connaît bien, et les espèces non certifiées et non soumises à des normes techniques. Voilà ce qui fait le panel des mélanges fleuris aujourd'hui. Donc, pour la première phase, il faut savoir que la partie expérimentation des semences concerne plutôt les espèces qui sont soumises à recherche variétale. C'est-à-dire qu'il y a des catalogues variétaux, surtout dans le domaine systématiquement des graminées, qui font les prairies. Je nomme les principales, régras, fétuques, dactyles. Ensuite, il y a également les légumineuses, que sont les trèfles, qui ont été cités déjà. Il y a différents trèfles, les lotiers, les luzernes, bien sûr, puisque dans le sud-est, on est un riche pays de luzernes. Et donc, on estime à entre 5 et 10 ans le nombre d'années nécessaires à la recherche pour identifier, sélectionner et proposer ces espèces et ces variétés sélectionnées. Voilà, donc ça c'est pour donner une idée ensuite au final du coût de ce que représentent les espèces et les variétés certifiées. Donc là, on est en sélection avant multiplication par les semenciers et donc par les obtenteurs de variétés ou les organismes tels que l'INRA qui ont fait également pendant plusieurs décennies ce type de travail et notamment à l'INRA de Moggio que l'on connaît bien. Donc, une fois que c'est eu, on va dire en moyenne 8 ans sont passés, les semences sont mises à la disposition du commerce par délégation variétale et le semencier qui prend les variétés en délégation va les proposer par contrat de multiplication à l'agriculture. Donc là, l'agriculture reste un acteur prédominant du système et la multiplication se fait au champ. Entre par un contrat qui lie le semencier multiplicateur à l'agriculteur multiplicateur. Et donc ça c'est sous une forme, sur un planning de 1 an, 2 ans ou 3 ans, que la semence de base est proposée à l'agriculteur qui achète la semence de base, qui met le protocole technique en place, suivi par des techniciens, avec le process technique, je dirais, de l'agriculture classique à ce jour. Principalement, on commence à parler de filière bio, évidemment, mais enfin, c'est pas celle qui prédomine aujourd'hui. Et donc, à l'aboutissement, la récolte est mise à disposition du semencier qui va pouvoir faire les analyses en combinaison avec les services officiels de contrôle, qui sont donc une division du GEVES, qui a été cité tout à l'heure par M. Bourduge, et qui permet de qualifier le lot comme par rapport aux normes préétablies, qui sont basées sur le pourcentage de germination, sur la valeur, le pourcentage des impuretés, chaque espèce donc a ses normes. Pour vous donner une idée, le pourcentage de germination des espèces classiques graminées est de 75 à 85%. Pour les légumineuses, on est plutôt au-dessus de 80%. Et pour les espèces à normes non certifiées, mais à normes techniques répertoriées, on peut descendre, ça peut être entre 60 et 80% la germination, vous voyez, sur un lot de graines. Donc, là, je dirais que la partie agricole se termine à partir de la fin de cette deuxième phase et intervient la partie purement industrielle du traitement des semences qui se fait donc pour, purifier, entre guillemets, même si c'est pas un mot très biodiversité, mais éliminer les mauvaises graines par différents processus mécaniques. Donc on a affaire, donc une fois que le lot récolté rentre en usine, on utilise des séparateurs qui, à l'aide de grilles et différents systèmes de ventilation, permettent la séparation des bonnes graines avec les impuretés. Il y a des séparations alvéolaires par des systèmes de cylindres, il y a des classements magnétiques des variétés, divers systèmes industriels, de tables densimétriques et autres qui permettent donc d'aboutir à l'eau qui rentrera dans la norme agréée par le service des contrôles. Voilà. Et donc, une fois que ces lots sont agréables, parce que nous, on a un premier laboratoire interne au niveau industriel, donc tous les échantillons sont doublement, inspectés par les services de l'État et par l'industriel généralement, ou un service sous-traité. On arrive donc à du matériel semence mis sur le marché, en fait, et disponible à la vente, sachant que j'ai parlé dans ce cadre-là à chaque fois d'espèces pures. Et c'est vrai que dès qu'on va parler d'espèces locales, on va rentrer dans des systèmes de mélange, presque obligatoirement. Lorsqu'on veut prélever pour multiplier le contenu d'une parcelle, par exemple, voilà, les problèmes vont apparaître de façon complètement différente à ce niveau-là. Donc, par rapport à l'aspect, je dirais, technique, jusqu'à l'aboutissement, en fait, de lot de semences mis à la disposition du commerce, de la filière commerciale, voilà un petit peu les 10-12 années qui font, évidemment, le prix de la semence. Alors, ce prix, bon, la notion de coût des semences, c'est vrai que c'est la chose importante au final, quoi qu'il en soit. Il est fait évidemment par rapport à l'économie d'échelle que l'on peut avoir, c'est-à-dire les variétés ont un potentiel de production à l'hectare qui est classé à l'hectare, qui varie si on intègre toutes les graminées, les légumineuses, on va avoir un potentiel de récolte de 400 à 1500 kilo-hectares, par exemple, en intégrant les 10, 15, 20 espèces concernées. Et qui donne un prix sorti de parcelle agricole qui est retenu par un prix plancher grâce à la PAC, je ne sais pas comment il faut dire, mais donc il y a un prix plancher sorti de parcelle qui fait que l'agriculture peut vivre grâce à cette multiplication de graines. Donc l'économie d'échelle va faire que certaines variétés vont être évidemment plus intéressantes à produire que d'autres, et jusqu'au moment où certaines variétés sont abandonnées de production parce qu'elles ne sont pas assez compétitives, on va dire, intrinsèquement pour être valides, pour pérenniser sur le marché. Donc la capacité de multiplication de chaque variété et de chaque espèce fait qu'aujourd'hui on a parfois un peu les mêmes espèces qui reviennent, et c'est pareil pour les espèces classées sauvages. Celles qui sont les plus reconnues aujourd'hui, c'est celles qui produisent le plus, quoi. Sont les plus faciles à produire et qui produisent le plus en quantité. Il n'y a pas trop de mystère dans ce domaine-là. Et donc je voulais revenir sur le fait que les espèces et variétés prairiales classiques, graminées et légumineuses, sont soumises à des prix planchers de culture. Et ça, c'est un aspect, effectivement, qui, pendant quelques dizaines d'années, en tout cas, a stabilisé, on va dire, le marché, même si tous les ans, il y a de nouvelles variétés qui apparaissent. Si elles perdurent, ça veut dire qu'elles apportent un plus au niveau technique pour être sélectionnées et au niveau économique par leur capacité de production. Voilà. Donc, après, c'est vrai que ceci nous fait aboutir à des lots d'espèces pures qu'il faut mélanger, je dirais. Une fois que les lots sont agréés, qu'ils soient certifiés ou non certifiés, mais en tout cas qu'ils ont été produits, multipliés et traités industriellement, ils sont donc en sachet par mélange pour faciliter l'utilisation finalement de tous et de toutes les collectivités notamment, quoi. Donc les mélanges fleuris, ben, ont la particularité de regrouper un grand nombre d'espèces, effectivement. Aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'on a généralement entre 65 et 80% d'espèces type certifiées. Et puis, donc, le reste en espèces moins, voilà, non certifiées, et qui, elles-mêmes, font l'objet souvent d'importations, comme le rappelait M. Patrick Bourduge et M. Minot. Donc, effectivement, la loi économique a mis le joug sur cette évolution de filière. Ben, moi, je me situe justement entre deux générations. Dans ce métier, dans cette filière. Si je suis là, c'est parce que moi, je suis optimiste de nature, mais aussi de réalité. Et après 20 ans d'expérience, je me dis que ce qui n'a pas marché à la fin des années 80 et au début des années 90 doit pouvoir fonctionner dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Donc, voilà, pour conclure, je dirais que beaucoup de choses restent à faire et Certaines ont été embryonnairement tentées, mais n'ont pas abouti parce qu'elles étaient peut-être de vision trop précoce par rapport à la maturité du marché. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus facile de convaincre les financeurs sur ce type de projet. Alors, on est dans un trimestre, je dirais, très important par rapport à des décisions locales, que ce soit dans la Basse-Vallée de l'Aude, dans les Pyrénées, ou voilà, notamment pour voir comment vont réagir un petit peu les acteurs économiques pour qu'il y ait une évolution pertinente de tout cela. En tout cas, je m'y emploie et je suis content qu'on soit quatre semanciers autour de cette table parce que la tâche est immense. Et j'espère qu'on saura bien se partager le travail pour que les choses soient bien faites et que tout le monde y trouve son compte. Voilà.
Merci. Je voudrais rebondir sur la question de Lisa tout à l'heure. Elle a dit on a voulu acheter des trèfles, mais on ne pouvait pas parler de semences sauvages ou locales, puisque de toute façon, il y avait une certification obligatoire, donc on est passé par des variétés. Qu'en est-il ? On veut un Trifolium fragiférum qui pousse là au bord de la route parce qu'il nous plaît. Je ne sais pas si le fragiférum est très certifié, mais un autre. C'est certifié, donc on exclut la possibilité d'utiliser l'écotype local s'il ne passe pas par tout système là ?
Actuellement, il y a des réflexions fortes et de fond sur la fédération des semenciers, sur la politique agricole commune européenne et tout ça qui est en branle-bas de combat par rapport à des réformes. Et je dirais que actuellement, on est un petit peu sur des sables mouvants qui accoucheront bientôt, très bientôt, j'espère, sur des nouvelles conditions de travail. Mais actuellement, tout le système est flottant parce que beaucoup de questions, comme aujourd'hui, se posent de la part de tout le monde en France et en Europe. Et M. Minot va compléter ma réponse par rapport à ça. Je pense qu'il est beaucoup plus pertinent là-dessus.
Je vais prendre un autre exemple, le dactyle aggloméré. Oui. Dactyle aggloméré, qui est une fourragère, le dactyle aggloméré, qui est une espèce fourragère, une graminée fourragère, donc produite, certifiée, et ainsi de suite. Il y a eu des idées, comment ça s'appelait déjà le phytosociologue très célèbre dans le nord de la France, GU, donc il y a une quinzaine d'années, a voulu lancer c'était au moment du TGV, du tunnel sous la Manche, de dire, d'ailleurs vous avez peut-être participé à la réflexion à l'époque là, donc de produire des dactyles sauvages. Mais le problème, on retombe toujours sur la même chose, filière de production, et la différence de coût entre une production de dactyles sauvages et celle qui est en grosse cavalerie en certifié. Actuellement, il y a un travail sur le dactyle hispanica, par exemple. Il y a une variété de dactyle, une variété. Alors là, c'est les gens qui sont là-bas, qui sont plus compétents que moi, pour dire si cette variété hispanica, c'est juste une inscription, finalement, de l'écotype, ou s'il y a déjà une sélection. Mais pour les gens qui veulent travailler en région méditerranéenne sur le dactyle, il y a quand même cette variété-là. Et le dernier point que je voulais soulever, c'était par rapport à ce que vous avez expliqué sur les notions de normes. Et donc, de ce fait, pureté spécifique, pouvoir germinatif. Attention, les jachères fleuries, sauf que, me tromper, on va travailler pas mal avec des espèces qui, en réalité, ne sont pas normées, ou en flottement en termes de normes. Ça veut dire que tout ce qui est pouvoir germinatif, pureté spécifique, et on retombe peut-être sur le problème de madame, c'est flottant. Donc, c'est à vous, à ce moment-là, prescripteur ou maître d'ouvrage, de définir vos propres normes, de dire « moi, je veux telle qualité ». Donc la provenance et également, dans ce cas-là, les niveaux de pureté et les niveaux de pouvoir germinatif, puisqu'il n'y a rien dans la réglementation pour ces espèces-là qui décide, qui fixe une norme comme celle qu'il y a sur les espèces certifiées. Ça, j'ai dit ça sous le contrôle des gens qui sont plus compétents que moi sur les notions de certification.
Donc globalement, quand même, on peut dire que toutes les espèces qui ont des sélections variétales, on n'a pas le droit de multiplier une espèce qui serait exclue d'un écotype. C'est la réglementation.
Donc c'est très important à prendre en compte, ça.
C'est vrai pour les épics, c'est vrai pour les dactyles, c'est vrai pour les métiers, c'est vrai pour les trèfles, c'est vrai pour pas mal d'espèces, sauf si on change d'espèce. Hein, c'est-à-dire un trèfle violet. est une espèce certifiée, mais un trait très différent, on peut l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'arrêté certifié, on ne peut pas multiplier.
Donc l'arrêté n'est pas que. Moi j'avais cru comprendre qu'il était sur Trifolium. Donc c'est pas sur Trifolium.
Non, non, c'est une chose spécifique.
Sur l'espèce. Hein.
Mais pour...
Et on a le même problème avec des lins oléagineux, par exemple, nous on l'utilise dans les lingeries aussi, et c'est des espèces qui sont à certification obligatoire, on est coincé aussi, on est obligé de certifier le nom.
Donc là, tout simplement, pour ces espèces-là, on ne peut pas parler, parce que la loi l'interdit, voilà, de culture d'espèces sauvages locales.
Ça, ouais. C'est une grosse question par rapport, pour moi, aux enherbements agricoles. Parce que c'est là qu'ils sont le plus utilisés et en contact avec les milieux naturels, hein, où on a le plus de risques, s'il y a un risque pour certaines espèces.
Oui, mais là, ça existe depuis X années. Il y a 6 pollutions liées à l'air, on arrive maintenant.
C'est fait. Ça dépend, il y a des milieux où il n'y a pas. Ah,
peut-être que ça dépend de certains milieux, mais globalement, au niveau national.
Je pense notamment à des milieux comme la Camargue, par exemple. Mm-hmm. La Camargue. Où on a là des sous-espèces ou des écotypes particuliers d'espèces médio-européennes, en fait.
Dans des milieux
qui n'ont pas forcément été en contact avec des espèces cultivées, des variétés. Donc là, la question est ouverte, j'en sais rien.
Et la question à ce moment-là, c'est de savoir, est-ce qu'on se prive dans ce cas. Vous parliez des fétuques, par exemple, les fétuques. Ou les régras, hein, le régras anglais, donc qui est le lien pérenné dans la nature, qui est certifié depuis des lustres. Donc les notions d'interférence doivent être absolument considérables. On ignore tout de ça. L'idée de GU de dire à l'époque on va produire, mais il y avait peut-être depuis des décennies des cultures de dactyles juste à côté. De quelle façon ce dactyle de ce fait était encore sauvage, c'est tout le problème. Mais si on veut à la limite pas prendre de risque, à ce moment-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on dit bah, cette espèce-là, on ne l'utilise pas, puisqu'on ne veut pas prendre le risque de la mélanger avec un écotype sauvage. Donc à ce moment-là, on ne la met pas. Mais on peut se priver à ce moment-là d'espèces qui peuvent être quand même sacrément intéressantes. Hein.
L'écotype.
Non, mais on n'a pas le droit pour l'oléum pérenne.
Voilà, et pour en terminer.
Là, j'espère que tu auras des évolutions. Voilà.
Non, mais parce
qu'il y a les évolutions. On a vu pour les messicoles comment ça s'était passé. S'il n'y a pas de commercialisation, il y a des échanges possibles.
Oui, tout à fait. Mais
les évolutions sont en train de s'étudier, je dirais. Alors bon, elles s'étudient par ceux qui ont des intérêts à ce qu'elles soient étudiées, évidemment. Mais ce qui est certain à ce jour. Et on peut reprendre l'exemple que tu as cité tout à l'heure, Jérémy, avec le Conservatoire botanique des Pyrénées. Ils ont achevé leur travail de sélection d'esquia et ils ont mis en petite pépinière, mais ils sont obligés de passer ensuite pour la multiplication par un organisme certifié de multiplicateur de semences. Voilà, par un semencier donc. Voilà la réalité aujourd'hui concrète de.
Pourquoi sur Esquia à l'époque catalogue?
Esquia est certifiée.
Elle n'est pas au catalogue?
Non. Alors, je ne sais pas. Mais enfin, eux, ils se sont heurtés au système, au vrai système, à la filière. Et alors, est-ce que c'est pour arriver à perdurer dans cette
Patrick,
option?
Patrick, tu veux intervenir en 2 minutes?
Patrick connaît aussi.
Non, mais c'est bon, réponds, on a tout à venir.
Vas-y, parce que toute la SKIA est une espèce en terre, le conservatoire botanique avec ses partenaires a cherché à multiplier,
oui,
en différenciant aussi des zones d'origine de la transmettre. Le résultat est que les connaissances sur les cultures, mais l'étape de produire à une échelle suffisante pour satisfaire les besoins, cette étape n'a pas été franchie. Pour des raisons de financement, donc de partenaires suffisamment motivés. Voilà. Mais c'est une espèce sauvage, si je peux employer un mot clair. On a cherché à la domestiquer pour une culture, mais il n'y a pas eu d'amélioration vergicale. Je me permets de préciser pour moi qu'est-ce que signifie sauvage, c'est qu'il n'y a pas eu de sélection ou d'amélioration vergicale conduisant à l'inscription dans un catalogue français ou communautaire. C'est la démarche que fait donc plein d'autres semenciers en France et en Europe pour protéger le travail de l'essai sur un certain nom d'espèce à vocation fourragère et gazon. Revenant à ce qu'il y a, le problème que s'est posé le conservatoire botanique pyrénéen, dans le cadre aussi de sa recherche de types adéquats, et aussi une réflexion sur savoir si
à être lancés dans une production d'espèces pour lesquelles on n'avait pas de rapport technique, et ils ont, par eux-mêmes, visité un semencier autrichien, situé dans l'Arcachon, qui produit une espèce graminée qui ressemble beaucoup à l'effet Strucker-Estia. Et leur point d'interrogation était dit, comment, si on produit français, on va réussir là-dessus, que ça sera bien notre production, qui ne sera pas galvaudée par une importation cachée. Et ça vous montre aussi le genre de questions que des gens qui étaient déterminés à produire localement pouvaient même se poser avant même qu'on soit dans un stade de production. Et j'insiste aussi sur l'origine. Les semences, elle n'est absolument pas contrôlable. Elle l'est peut-être sur les semences certifiées, puisque chaque lot produit chez un agriculteur multiplicateur a un code et on peut retrouver le code au moment de la mise en œuvre par l'utilisateur final, en matière d'espèces sauvages. Maintenant, les numéraires, je produis dans les numéraires, si j'en ai plus, j'en ai un mal, j'en ai un confrère, et le vendre en disant.
Et du coup, moi, ça m'amène à la question, est-ce que vous avez un intérêt à vous différencier parce que justement vous avez des pratiques, vous faites différemment, à mieux valoriser vos produits par une différenciation, par un label, mais par une charte qui permet de bien vous identifier parmi d'autres pour dire, ben, nous on travaille avec ça, on fait comme